Vous allez bien? Vous allez bien? Oui? Il y a d'autres pays où ils vont moins bien que nous. Est-ce que nous, on va bien? Est-ce qu'on peut dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur, pour la grâce qu'on a. C'est le jour où vous aurez plus l'usage de vos deux jambes que vous direz merci, Seigneur, pour ce temps où je les avais. C'est le jour où votre guitare sera cassée que vous direz oh, punaise. Merci Seigneur quand j'avais cette guitare. Sachons apprécier ce qu'on a. Sachons apprécier la richesse et la grâce dans laquelle on vit. Il n'y a rien qui est... C'est pas du tout mon message, mais j'ai à cœur de le dire, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui est indu, d'accord? Le Seigneur ne nous doit rien. Il ne nous doit pas une vie agréable. Il ne nous doit pas la bénédiction. Il ne nous doit pas le soleil qui se lève, un toit sur notre tête. Il ne nous doit rien de tout ça. Il est suffisant pour nous. Et tout ce qu'on a, c'est par grâce. Et on a tellement de sujets de reconnaissance. J'aimerais que nos temps de louange soient remplis de reconnaissance. Que nos temps de louange soient juste une réponse à cette révélation de l'intensité de la grâce de Dieu dans nos vies et de tout ce qu'elle permet et de tout ce qu'elle produit. C'est riche, les amis. C'est pas juste quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose qu'on doit laisser imprégner nos cœurs. Laissons de la place à cette redevabilité à Dieu. Laissons de la place pour cette grâce dans nos vies. Laissons de la place pour cette dépendance à Dieu. Je crois que c'est tellement, tellement, tellement important. Bon, c'était pas mon message de ce matin, mais ça en fait partie. Je voulais commencer par vous demander... Puis vous lèverez la main. Est-ce qu'il y en a qui, de temps en temps, ziotent sur le net des vidéos où on voit des chutes à répétition. Vous voyez les gens qui commencent à faire quelque chose et puis ça se passe. Voilà, il y a des gens qui tombent, il y a des gens qui tombent dans l'eau, il y a des gens qui se ramassent sur un mur, qui tombent par terre, qui les animaux aussi, ça le fait. Ouais, on voit à peu près tous ce genre de petites vidéos. Ok. Dans ces vidéos. On imagine hein, la vie des gens dans lesquels ils sont. Il y a un objectif de départ qui est clair. Ils voulaient faire quelque chose. Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Et puis, ça se passe comme ça. Et nous, ça nous fait rire, effectivement. Ça nous fait un peu moins rire quand ça nous arrive. Mais donc, on a des gens qui ont un objectif de départ qui est hyper clair. Ils veulent faire quelque chose et boum, ils se cassent la figure. Et ça ne se passe pas comme prévu. Si je commence par là, c'est juste pour nous rappeler que dans le contexte de la mission, c'est exactement la même chose. Dans le contexte de la mission, l'objectif, il est clair. Seigneur, il nous a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre, annoncez l'évangile. Faites des disciples parmi toutes les nations, baptisez-les, enseignez-leur à être des disciples, à aimer le Père, à garder ma parole, à faire d'autres disciples. Je veux dire, l'objectif, il est clair. Qui doute de cet objectif-là? Je pense personne. Il est extrêmement clair dans la parole de Dieu. Et pourtant, est-ce que ça se passe comme ça? Je pense que si le Seigneur y montait une vidéo avec nos propres vies, ce serait une vidéo de chute à répétition. Ce serait une vidéo de gamelle. Peut-être, en fait, il y a plein de joie dans le ciel juste de rigoler de ça. Notre Dieu a tellement de l'humour et il est tellement, lui, en confiance de maîtriser toute l'histoire que même malgré nos gamelles, il tient toute chose. Et en fait, on est dans Actes en ce moment, Actes 12. Je ne sais pas si vous avez lu Actes 12 pour ce matin ou s'il faut que je le rappelle. Je vais faire un petit rappel d'Actes 12. C'est le cas, c'est ce qui se passe dans Actes 12. On est dans l'après Jésus qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, ces apôtres qui sont là, qui ont été dispersés. Et dans Actes 12, on a Jacques et on a Pierre qui font les frais, justement, de ces gamelles. Pas à cause d'eux, mais parce qu'il y a des oppositions, parce qu'il y avait un obstacle au milieu, parce que sur la route sur laquelle ils marchaient, ils se sont pris une barrière à un moment donné et ils sont tombés. Et ce qui se passe dans Actes 12, c'est que Jacques, il meurt. Jacques, le frère de Jean, il meurt par l'épée, parce qu'Hérode l'a demandé. Jacques, il meurt. Et Pierre, il est mis en prison. Donc il y a des choses qui sont difficiles dans Actes 12. Actes 12 nous décrit la puissance d'Hérode. À quel point cette autorité politique romaine était fermement contre cet évangile-là. Et à quel point il a fait du mal à quel point c'était une opposition physique. Et tout ça, ça se passe dans un contexte de très forte croissance de l'Église. L'Église est en croissance, l'Église est en expansion par la prédication massive de l'Évangile. Mais il y a également une grande opposition. Acte 12, 1 à 3 nous dit « Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il les fit mourir, par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. » Quand il dit « voyant que cela était agréable aux Juifs », ce n'est pas un raccourci que l'ensemble du peuple se réjouissait de la mort de Jacques ou de l'emprisonnement de Pierre, d'accord ? Mais c'est simplement une partie des autorités religieuses juives qui se réjouissaient de ces choses-là. Et Hérode a travaillé dans ce sens-là avec ces autorités-là pour mettre un frein à cette annonce de l'Évangile qui annonçait un Jésus-Christ que certains parmi les Juifs ne reconnaissaient pas comme étant le Messie attendu. Et donc on a Jacques qui est mis à mort, rien que ça. Je veux dire, c'est pas une petite opposition. C'est un arrêt brutal. Est-ce que Jacques va continuer à prêcher l'Évangile depuis sa tombe? C'est fini pour Jacques. C'est une opposition radicale. Pierre, il a été mis en prison. Il était entre deux gardes. Il y avait encore deux postes de garde derrière et ensuite une porte en fer qui était verrouillée. Est-ce que de là, Pierre, il pouvait prêcher l'Évangile? Est-ce que ça, c'était pas une grosse opposition radicale à l'annonce de l'Évangile? Est-ce que ça, c'était pas une grosse opposition à la mission que Jésus leur avait donnée? Jésus, il leur dit, allez, évangélisez. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Et boum, vidéo de cascade. Et pour nous, aujourd'hui, comment ça se passe? Si tu peux juste mettre le PowerPoint, j'avais juste deux images à vous montrer. Voilà. Porte ouverte, donc pour ceux qui écouteront ce message, j'affiche à l'écran l'évolution de la persécution des chrétiens de 1993 à 2023, issue du site de Porte ouverte, et que je vous encourage à aller consulter, parce que c'est très édifiant pour relativiser ce qu'on est en train de vivre, nous, aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé mon message comme ça tout à l'heure, en fait. En 1993, nous avions 40 pays qui étaient dans l'index de la persécution des chrétiens dans le monde. C'est un index sérieux qui est fait par Porte Ouverte. On avait une quarantaine de pays qui étaient déclarés en persécution forte, très forte ou extrême. En 30 ans, on en a le double, 76. De 1993 à 2003, on passe de 40 pays à 76 pays qui subissent une oppression, qui subissent des oppositions à répétition, et des oppositions qui sont de plus en plus fortes. Vous avez des couleurs qui sont de plus en plus foncées par rapport à 93. En 2023, il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, tous les jours. Ça fait un chrétien sur sept. Est-ce qu'on réalise la grâce dans laquelle on vit? Elles sont où nos oppositions à la mission? Je nous laisse du temps pour réfléchir à ça. Dans ces pays qui sont sous la persécution, avec des chrétiens qui sont mis à mort, 15 chrétiens tous les jours qui sont tués dans le monde pour leur foi. Dans ces pays-là, ils se réjouissent quand une Bible arrive entre leurs mains. Dans ces pays-là, ils font des kilomètres pour aller rencontrer leurs frères et sœurs, à pied parfois. Dans ces pays-là, ils prennent des risques de tout perdre, d'être excommuniés, de perdre leur famille, d'être mis à mort, de perdre leurs enfants, simplement parce qu'ils confessent Jésus-Christ. Mais dans ces pays-là, la mission, elle est bien réelle. Et la progression de l'évangile, elle est fulgurante. Et moi, ça me questionne ce matin, dans ce contexte où on est en train de passer au travers d'actes, où on est en train de plonger dans les actes de ce que les apôtres ont fait, et en disant, mais ces actes-là, ils ne s'arrêtent pas à acte 28, ça continue, on est concerné par ces actes. D'ailleurs, je préfère qu'on dise acte que acte des apôtres, parce que ce n'est pas que les actes des apôtres, premièrement déjà, c'est les actes de Dieu au travers des apôtres. Et ces actes-là, ils continuent, Dieu est éternel, Dieu est exactement le même hier et aujourd'hui. Et ce qu'il a fait au temps de l'après-résurrection de Christ et la manière dont il a bougé avec les apôtres pour la progression de son évangile parfait dans le monde, c'est encore la même chose aujourd'hui. Et il continue d'agir de la même manière dans tout ce monde. Peu importe les oppositions, peu importe les gamelles qu'il peut y avoir. Alors je me dis, est-ce qu'on a besoin de persécution? Non, on n'a pas besoin de persécution. Le modèle biblique, il n'est pas que parce qu'on est persécuté, l'évangile progresse. Mais je crois qu'en fait, c'est très humain de nous attacher à notre confort. C'est très humain de faire un club chrétien. C'est très humain de considérer normal qu'on ait le droit de se rassembler, qu'on puisse louer le Seigneur, et on en devient blasé. Ça nous enlève rien à notre salut, les amis. On est sauvés de la même manière. Mais moi, je crois qu'on perd une partie du zèle dont on a besoin pour la mission que Dieu nous donne. Amen ! S'il vous plaît, réveillons-nous ! Réveillons-nous, les amis. Je ne fais pas juste un message pour vous occuper ce matin. J'ai sur mon cœur quelque chose d'extrêmement lourd et qui me touche moi en premier. Il est où mon zèle? Tous les jours, dans ce que je fais. Il est où notre zèle? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une interdiction? On se plaint d'une loi de séparation de l'Église et de l'État qui nous amène quoi? Qui nous amène des contraintes financières. Ah ouais. On doit déclarer les dons provenant de l'étranger. On doit faire des budgets prévisionnels. On doit être attentif à déclarer correctement nos lieux de culte, etc., etc. So what? Je ne suis pas pour cette loi. Elle ne me plaît pas, bien sûr, que c'est un début. C'est un début vers le fait de tenir davantage tout ce qui est non laïque. Bien sûr que ça me plaît pas. Est-ce que c'est une opposition de persécution? Non. Non. Quel est notre frein aujourd'hui à faire la mission que Dieu nous a demandé aujourd'hui? Quel est notre frein? Sinon, notre propre incrédulité. Notre propre incrédulité dans ce que Dieu peut faire au travers de nous. En nous-mêmes, ou alors dans la mission que Dieu nous a lancée, est-ce qu'elle est sérieuse ou est-ce qu'elle n'est pas sérieuse? Et moi, ce matin, j'aimerais vraiment questionner notre foi. Questionner notre foi là-dessus. Questionner ma foi aussi là-dessus, bien sûr. Je ne vous fais pas la leçon ni la morale ce matin. Je nous interpelle parce que je crois que c'est juste. Où est notre zèle pour l'Évangile? Et si ça vous gratte dans le cœur et si vous dites que je suis en train de vous culpabiliser un peu, oui, et c'est bon. Par contre, cette culpabilité, qu'elle ne reste pas. Souvenons-nous que Dieu est un Dieu de grâce et qu'il fait grâce, même par-dessus toutes ces choses-là. Par contre, le fait de sentir à un moment donné qu'on n'est pas juste dans notre cœur par rapport à certaines choses, ça nous amène à les corriger, ça nous amène à les redresser. Donc je voudrais vraiment nous exhorter, je ne vais pas dire encourager, même si c'est le sens du mot encourager, il est aussi comme ça, il y a aussi de la discipline dans l'encouragement. Mais je veux nous exhorter, soyons zélés les amis. Jésus nous a montré l'exemple, Ésaïe 53:7, il a été maltraité et opprimé, il a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et il nous a dit, dans Matthieu 10, 16 à 20, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, de la même manière. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Voilà pourquoi, même au travers de la persécution, même dans ce que Jésus annonce, il est déjà en train de dire que même là, alors qu'on sera amené dans des tribunaux, ce sera une occasion d'annoncer son évangile. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu pourvois. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure n'a rien à voir avec le fait d'essayer d'aller chercher un espèce de zèle à l'intérieur de nous-mêmes, de grandir dans notre force zélée pour quoi que ce soit. Je crois que c'est avant tout de plier le genou et de reconnaître que Dieu agit au travers de nous, et de demander à ce qu'il agisse avec plus de puissance, de demander à ce qu'il renouvelle ce zèle en nous, de nous attendre et de parler à notre foi que Dieu va nous utiliser en mettant dans notre bouche les mots qui sont suffisants pour chaque situation. Attendons-nous à ça. Est-ce qu'on s'y attend ou est-ce qu'on s'y attend pas? Est-ce que Dieu est un menteur ou est-ce qu'il a raison? Il a raison, les amis, c'est écrit. Alors attendons-nous à ça. Ne soyons pas incrédules par rapport à ces choses-là. Croyons que si Dieu dit qu'il va remplir nos bouches, alors qu'on va être amené face à des oppositions, alors qu'on va être amené devant des oppositions massives parfois, croyons que Dieu reste fidèle à ce qu'il a promis. Dans Actes 12, 22, il est question d'Hérode qui harangue le peuple à un moment donné. Et le peuple, il s'écrie « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Ça nous donne un sens de la puissance de cet Hérode qui se lève aujourd'hui, qui se lève à l'époque face à l'Église. Et c'est des géants, et on a des géants parfois qui se dressent devant nous. Je ne parle pas de petites oppositions, je parle vraiment de géants, je parle de montagnes, je parle de situations où, qui peuvent nous décourager, de situations qui peuvent nous faire perdre de vue complètement l'objectif dans lequel on marchait, qui peuvent nous faire nous tenir dans la peur. C'est une réalité qu'il y a des géants comme ça. Le peuple d'Israël, il faisait face à un Goliath qui a fait que tout le monde avait la trouille et qu'ils avaient les genoux qui se choquaient parce qu'ils étaient en train de trembler face à la puissance de ce Goliath. Et il disait, mais qui pourra aller? Et puis c'est quoi? C'est un petit bonhomme de rien du tout, un David, qui sur la voix du Seigneur qu'il a entendue, va faire face à ce Goliath, et puis on connaît la fin de l'histoire, Goliath tombe, parce que Dieu a choisi de manifester sa puissance au travers d'un enfant qui avait foi dans le fait que Dieu agirait. Et David a agi, pourquoi? Pour l'honneur du nom de Dieu, et pas pour démontrer sa force ou sa capacité à lui, ou pour sauver son peuple seulement, il l'a fait pour honorer le nom de Dieu et dire « Il n'est pas bon que le nom de Dieu soit sali et moqué par cet homme, alors je vais me lever et défendre. » Mais c'est une réalité, il y a des géants dans nos vies. Donc oui, bien sûr qu'il y a des oppositions, bien sûr qu'il y a des choses qui nous arrêtent, bien sûr qu'il y a des choses qui nous font peur. La question c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces choses-là? Et Acte 12 nous en parle. Acte 12 nous dit que face à ces difficultés, face à ce que Jacques a connu, face à ce que Pierre a connu alors qu'il est dans la prison, et face à ces difficultés-là, la seule chose que nous dit Acte, c'est « Tournez-vous vers Dieu, levez les yeux, priez. » Priez, priez, priez. Et c'est ce qu'on trouve. On trouve l'Église en prière. Jacques 5,16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Amen. Seigneur, je crois à cette promesse-là aussi. Et ce qu'on voit dans Acte 12, c'est en Acte 12,5, Pierre, alors qu'il était gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières pour la libération de Pierre. toute l'église était en prière pour ça. Et ils n'avaient pas d'autres moyens. Ils n'étaient pas en train de manifester devant la prison leur mécontentement. Ils n'étaient pas en train d'imaginer des solutions pour plastiquer les murs de la prison et créer une brèche et une ouverture. Non, ils savaient qu'ils devaient s'attendre à Dieu seulement, que le seul secours viendrait de l'Éternel et que donc ils devaient lever les yeux. Non pas regarder la situation en bas, mais lever les yeux et prier. Prier celui qui était capable d'intervenir. Et un peu plus loin, dans Actes 12, 12, on a Pierre qui se dirige vers la maison de Marie, la mère de Jean, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils étaient tellement même accaparés par cette prière qu'au moment où elle va à la porte, elle croit juste que c'est un ange et puis elle revient prier parce qu'elle est plus concentrée sur cette dimension de prier plutôt que d'aller voir qu'en fait c'est vraiment Pierre qui est en train de toquer à la porte. Et ça nous rappelle une chose, ça nous rappelle que dans le cadre de la mission, on est dépendant de Dieu et on ne doit pas avoir peur de ça. On ne doit pas être des super-héros, on ne doit pas être des super-équipés. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 5 ans d'études de théologie, vous n'avez pas besoin d'être converti depuis 10 ans, vous n'avez pas besoin de plein d'autres choses, de charisme ou de je ne sais pas quoi. Vous avez juste besoin de Dieu. Nous avons juste besoin de Dieu pour la mission à laquelle il nous appelle. Et donc, acceptons cette dépendance. Et reconnaissons pas seulement ça comme une situation, je suis dépendant à Dieu, mais voyons tout ce que ça implique. Ça implique que si je suis dépendant de Dieu, c'est comme si j'enlève la pile dans ce micro, vous n'entendrez plus rien. Il y a besoin d'une pile. C'est ça qui fournit l'énergie. C'est ça qui permet à ce micro de marcher. C'est la même chose. Même chose pour nous. C'est la même dépendance. C'est le fait de dire que si je ne prends pas du temps pour me connecter à cette pile, j'aurai rien pour pouvoir avancer dans la mission que le Seigneur va me donner, sinon juste ma propre force et mes deux petits bras. Et c'est important de garder cette attitude de dépendance. Et c'est parce qu'il y a une attitude de dépendance à Dieu que, alors qu'il arrive une opposition, la seule situation, c'est de garder les yeux levés vers lui dans la prière et d'attendre son secours à lui. J'ai envie de vous lire ce psaume ce matin, que vous connaissez certainement par cœur, de David. « Je lève mes yeux vers les montagnes. » C'est pas parce que Dieu il est en haut de la montagne. Hein. C'est « Je suis dans la vallée, j'ai besoin d'avancer, et je lève, et autour de moi, je ne vois que des montagnes. Des montagnes, des difficultés. Je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Écoutez ses promesses. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Merci Seigneur pour cette promesse. Est-ce que ça veut dire qu'il nous arrivera absolument rien ? Non. Mais est-ce que ça veut dire que dans toutes ces situations, Dieu est avec nous et est capable de nous relever et de nous faire marcher et qu'on n'en ressort pas amoindri ? Oui. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en toute situation, Dieu nous fait marcher et avancer. Il nous fait grandir. Et c'est important que, alors qu'on parle de prière, alors qu'on parle de dépendance, alors qu'on parle de lever les yeux, de prier dans ce sens-là, de prier en sachant que Dieu est puissant et de prier en nous attendant à ce qu'il agisse avec puissance. Si j'ai une vision de Dieu toute petite, quelle va être mon attente que Dieu puisse faire quelque chose dans une situation ? Je suis face à une maladie. Si Dieu n'est pas puissant, quel besoin de prier pour cette maladie, par rapport à cette maladie ? Par contre, si je sais que Dieu est puissant, si je mets ma foi là-dedans, je vais prier en m'attendant à ce que Dieu intervienne. Nourrissons notre foi de ça. Nourrissons notre foi de cette vision d'un Dieu puissant. Parcourons dans la parole de Dieu tout ce que vous allez pouvoir trouver sur la puissance incroyable de Dieu. Dans Acte 12, vous savez ce qui se passe. Dieu, il sauve Pierre de la prison de manière complètement miraculeuse, malgré les gardes, malgré les chaînes, malgré les portes qui étaient fermées. Dieu, il envoie d'abord un ange pour réveiller Pierre et pour le guider jusqu'en dehors de la prison. Il ouvre les chaînes, il les fait tomber d'un seul coup. Les chaînes de Pierre, des chaînes en fer, où il était enchaîné à un mur. Les chaînes s'ouvrent, Pierre est libre, il n'est plus entravé. Alors qu'il sort, il passe deux garnisons, deux postes de garde. Et les gardes étaient en sommeil. Dieu les a laissés en sommeil, alors qu'ils étaient censés garder. Dieu les a laissés en sommeil pendant qu'ils ont pu sortir et qu'ils sont passés devant eux. Et enfin, il a ouvert les portes qui étaient fermées, même cette porte qui nous est dit, cette porte en fer qui était fermée et qui donnait sur la ville, cette porte de la prison qui devait être, à mon avis, pas n'importe quel type de porte, même cette porte-là s'est trouvée ouverte. Ils n'avaient même pas besoin de tourner la clé, il est dit qu'elle s'est ouverte d'elle-même. Alors, quelle que soit la taille des oppositions, quelle que soit la taille des murs qui sont devant, quelle que soit la taille de l'impossibilité d'avancer, Dieu est capable de frayer un chemin au travers de ce qu'il veut, au travers de n'importe quoi, même au travers des murs les plus grands. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Et même les archéologues aujourd'hui disent que c'était juste impossible par rapport à la taille des fondations qu'il y avait autour de Jéricho. Je comprends effectivement que les autorités de Jéricho, ils étaient mais sereins. Ils riaient de ce peuple qui était autour. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que c'était impossible que ça tombe. Pourtant, Dieu a frayé un chemin. Parce qu'il y avait besoin qu'il passe par Jéricho pour aller plus loin. Dieu fraye toujours un chemin là où il le veut. Quelle que soit la taille de ce à quoi tu fais face. Quelle que soit la taille de ce à quoi tu fais face. Donc ne soyons pas incrédules dans sa capacité à agir. Et nourrissons-nous de la puissance de Dieu. Dans ce passage d'Actes, on voit dans 21-23, Actes 12, 21-23, un jour fixé, Hérode qui était revêtu de ses habits royaux, qui était assis sur son trône, souvenez-vous, ce Hérode avec toute sa puissance, il harangue publiquement et le peuple s'écrie « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». C'était un moment d'extase populaire juste incroyable. Et au même instant, il n'a pas fallu longtemps, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé par des vers. Comme ça, Dieu fraye un chemin. Dieu fraye un chemin, comme il veut, où il veut. Ce Dieu dont on est en train de parler, par rapport à nos propres vies, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui, dans la parole, a pu arrêter la course du soleil. C'est lui qui a ouvert la mer en deux pour permettre à un peuple de passer. C'est lui qui a donné la manne dans le désert, là où il n'y avait rien. C'est lui qui a fait jaillir l'eau d'un rocher. C'est lui qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des foules. C'est lui qui a guéri des malades, qui a guéri des aveugles, des paralysés. C'est lui qui a délivré de la possession démoniaque. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ, qui était mort. J'ai dit tout à l'heure, Jacques, il a subi la plus grande des oppositions. Il était mort. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Dieu nous rappelle qu'il peut frayer un chemin, même au travers de la mort, même le jour où la mort fait face. Dieu peut ressusciter. Il a ressuscité Christ. Il a ressuscité d'autres. On en a des histoires de Dieu qui agit de cette manière-là encore aujourd'hui. Et c'est ce même Dieu qui a accompli tous ces miracles absolument extraordinaires. Je pense qu'on les lit des fois avec facilité, mais essayons de nous mettre au bord de ces miracles et de regarder Dieu agir de cette manière-là. Je pense que nos mâchoires tomberaient si on vivait ces choses-là. Imaginez-vous, vous êtes face à la mer, et vous avez la mer qui s'ouvre. Je crois que j'aurai pas de mots. Imaginez comment la louange du peuple, elle pouvait s'appuyer sur un Dieu qui agissait avec puissance comme ça. Vous imaginez? Et imaginons qu'on vit ça. On est face à cette mer elle s'ouvre, on peut traverser alors qu'on a les Égyptiens qui arrivaient sur nous pour nous rattraper, on peut traverser un peuple nombreux au travers de cette mer et cette mer se referme derrière nous, mais après un miracle comme ça, on est comment? On se sent comment? Petit. Incroyablement gracieux que ce Dieu-là soit notre Dieu. Incroyablement confiant dans sa capacité d'agir. C'est ce même Dieu qui a l'œuvre dans nos vies. On a parlé de la Turquie, de la Syrie. Il y a une histoire qui m'a touché. Il y a une fillette de 5 ans qui a été sauvée des décombres en Syrie. Vous avez peut-être entendu cette histoire-là 5 jours après. En général, il est entendu qu'après 72 heures, il n'y a pas vraiment d'espoir de retrouver des survivants. 5 jours après, 112 heures, je crois, si on compte en heures, 112 heures après, cette fillette de 5 ans a été sauvée des décombres et elle est sortie avec un visage rayonnant. Pas le visage de quelqu'un qui était à bout de force et qu'on a juste sorti un demi-cadavre, on dira, mais qui était encore en vie. Cette petite fillette de 5 ans, elle est sortie rayonnante. Et ils n'ont pas pu du coup couper aux infos, parce que bah, forcément, il y a le témoignage en direct. Et elle a témoigné de quelque chose de juste incroyable. Elle est sortie rayonnante en disant qu'un homme vêtu de blanc est venu la nourrir et lui donner à boire tous les jours et puis disparaissait. Au milieu des décombres. Et on ne les a pas toutes les histoires comme ça, mais des histoires de sauvetage miraculeux en Syrie et en Turquie, il y en a énormément en ce moment, on en entend quelques-unes. Tous ne témoignent pas de ce genre de choses-là, mais je sais que si Dieu il a agi et que cette fillette elle témoigne de cette manière-là, je suis certain que Jésus a utilisé cette opposition, que Jésus a utilisé cet écroulement pour se révéler à plusieurs. Oui Seigneur, continue de révéler qui tu es au travers des difficultés Seigneur. Mais ça se passe encore aujourd'hui. Dieu fraye des chemins encore aujourd'hui. Alors attendons-nous à l'action miraculeuse de Dieu, y compris sur les épreuves qu'on traverse. Nourrissons notre foi de ce qu'on lit ce matin dans Acte 12 et la manière dont Dieu il intervient de manière extraordinaire dans l'ordinaire. Dieu n'est pas limité par l'ordinaire, il n'est pas limité par les conditions physiques, il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par quoi que ce soit, il peut agir de manière complètement déconnectée. Élevons notre foi. Il n'y a que comme ça que notre zèle peut grandir. Si notre foi de la puissance de Dieu grandit. Et ça doit toujours nous encourager à lever les yeux vers lui, parce que c'est lui qui peut tout faire. Et c'est lui qui écrit, je le disais, une histoire parfaite, même au milieu de ce qui nous semble échapper à son contrôle. Souvenons-nous que Dieu n'est jamais surpris de ce qui se passe. Et que Dieu n'est jamais à court par rapport à ce qui se passe sur terre. Jamais à court. Psaume 115 nous dit que notre Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est un verset qui me donne de la foi. Donc, il est hyper simple. Souvenez-vous-en, psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et le jour où vous doutez, Seigneur, je me souviens que tu fais absolument tout ce que tu veux. Alors j'ai confiance. Et je vais conclure sur ce message. Hébreux 12, 1 à 3. On lit beaucoup ce matin, hein, et je trouvais que c'était important. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce n'est pas l'objet de ce message, mais c'est vrai aussi. Rejetons le péché, les amis, qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus et non pas sur les situations qui sont devant nous. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Pourquoi ? Afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Dieu n'est pas absent, déconnecté des oppositions auxquelles nous pouvons faire face alors que nous courons pour son nom. Jésus a souffert pour nous de manière injuste. Il a été crucifié de manière injuste. Il a été considéré pécheur de manière injuste, lui qui n'avait jamais péché. Mais il a été ressuscité, nous dit ce passage, et il est assis à la droite de Dieu. Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, a dépassé ces oppositions-là, a pu se relever et nous acquiert aujourd'hui une espérance éternelle, non pas dans nos propres forces, mais dans sa puissance manifestée. Alors, gardons les yeux fixés sur Dieu. Gardons les yeux fixés sur Dieu, les amis, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les persécutions auxquelles nous faisons face, levons les yeux et prions. On parle de la Turquie, on parle de la Syrie, on parle de l'Ukraine, on peut parler des difficultés qui sont face à nos propres vies. Prions, on a besoin de se tourner vers Dieu dans ces situations-là. Et je voudrais finir en regardant la toute fin de ce chapitre d'Actes. Acte 12, verset 24, dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. » Dieu fraye un chemin. Comme il veut. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et on a parlé d'opposition, on a parlé de géants, on a parlé de choses extrêmement dures qui sont à milieu de ce que nous, nous vivons dans nos propres vies aujourd'hui. D'accord ? Mais le contexte, c'est la parole de Dieu se répandait tous les jours, de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Donc oui, Dieu est victorieux, il est souverain sur toute chose et l'évangile gagne toujours à la fin. Saisissons cette fin d'acte 12 comme un verset d'espoir, un verset d'espérance sur le fait que ce que le Seigneur commence, il l'amène à son terme, sur le fait que dans cette mission, Dieu est à l'œuvre et Dieu agit comme il le veut. Nourrissons-nous de cet espoir-là, du fait que Dieu est Dieu, c'est ça le message d'acte 12 ce matin. Quelles que soient les montagnes, Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et moi, je prie que ce message ce matin, il soit un encouragement pour chacun à nous rappeler de courir dans sa mission, de ne pas rester statique, de rechercher ce zèle que donne l'Éternel pour la mission, de ne pas attendre qu'on soit persécuté pour nous mettre en marche, de faire des disciples tout autour de nous. Dans l'épreuve auxquelles nous pouvons faire face, de lever les yeux vers Dieu, de prier, d'attendre son secours, et enfin de garder une foi indéfectible dans la capacité de Dieu à agir selon sa volonté. Et alors, si ce message il nous encourage à ça, si on l'attrape, si on cherche à le vivre, les amis, moi je crois qu'on dira de cette région, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Amen. Amen. Alors je voudrais juste nous inviter à prier, si vous le voulez bien avec moi. Ouais. Merci Père pour ton esprit, parce que c'est ton esprit qui nous révèle qui tu es, Seigneur. Et on a tellement besoin que ton esprit vienne nous révéler encore plus de ta grandeur, de ta puissance, de ta majesté, de qui tu es vraiment, Seigneur, et de ta capacité à agir n'importe où, Seigneur. Au travers de cette révélation, on a besoin que tu viennes nourrir notre foi, Seigneur. Parce que c'est C'est de la foi que nous avons dans qui tu es et dans comment tu peux agir, Seigneur, que le zèle y grandit aussi dans nos cœurs en réponse pour annoncer cet évangile de manière complètement folle, même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés, Seigneur. On te demande de venir nous bouger, Seigneur. On te demande de venir réveiller le zèle, Seigneur. On te demande de venir souffler sur les braises qui fument encore, Seigneur. On te demande de venir ramener du bois dans les feux qui brûlent comme des brasiers ardents dès aujourd'hui, Seigneur. On te demande de faire une œuvre où tu viens réveiller et éveiller la passion dans nos cœurs pour ton évangile, pour ton nom, Seigneur. Oui, nous voulons, dans cette région, Seigneur, être connus pour que ta parole avance et que le nombre des disciples augmente jour après jour. Non pas pour qu'on connaissent l'église de Marguerite, Seigneur, mais pour que tu sois connu, toi, pour ce que tu fais à cet endroit-là, Seigneur. Utilise-nous, vraiment, Seigneur. Viens, on l'a dit, on devait rejeter tout péché aussi, Seigneur. Viens éclairer nos cœurs sur ce qui n'est pas juste, sur ce qui nous fait tomber, sur les propres obstacles que nous mettons nous-mêmes dans nos propres vies, Seigneur. Viens nous rappeler à quel point tu es plus grand, plus fort, plus puissant que ces choses-là, à quel point ton message de salut, il est un message d'espérance, même par rapport aux dépendances dans lesquelles on est, Seigneur. Oui, tu peux nous sauver de toutes les oppositions, y compris celles de nos propres cœurs, Père. Oui, nous le croyons et nous te demandons de faire une œuvre dans nos propres vies, dans nos familles, les uns avec les autres, les uns au travers des autres. Seigneur, viens nous aider à nous édifier, nous exhorter pour être un peuple passionné, zélé pour ton nom, Seigneur, dans cette région. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Viens réveiller notre foi, viens réveiller notre zèle, viens réveiller notre passion, Seigneur. Et dans les épreuves auxquelles nous faisons face, Seigneur, nous te demandons de faire tomber les géants, Seigneur. Nous te demandons de faire tomber les forteresses. Nous te demandons de faire comme pour Pierre, Seigneur, cette action où les chaînes s'ouvrent, Seigneur, où les gardes s'endorment, où les portes s'ouvrent jusqu'à l'extérieur, Seigneur, jusqu'à cet endroit où Pierre peut de nouveau annoncer ton évangile, Seigneur. Oui, tu es celui qui fraye un chemin dans toute l'histoire. Tu es celui qui fraye un chemin dans nos propres vies, Seigneur. Nourris notre zèle, notre foi, notre passion de cette vérité-là dans ta parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te demandons ça. Amen. Amen.